n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous vous questionnez sur l'engagement des philosophes.
Les 60 ans de la mort d'Albert Camus, figure du philosophe engagé pour la décolonisation de l'Algérie, le mouvement de grève qui touche les chercheurs de différentes universités, la parution de 3 conférences d'Alain Badiou sur Donald Trump qui exhorte à penser une alternative valable au capitalisme, ou encore l'affaire Gabriel Maznev et les compromissions du monde intellectuel avec la pédophilie, tous ces éléments m'ont amené à poser cette question. Si on caricature beaucoup les philosophes en les imaginant enfermés dans une tour d'ivoire, doivent-ils pour autant et à l'inverse s'engager? Est-ce leur rôle?
Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un.
Depuis ma découverte de Sartre au lycée, l'idée d'engagement me paraît évidente, normale, nécessaire, noble. Je dis bien l'idée, car pour ce qu'il en est de l'engagement concret, je dois bien reconnaître que je ne comprends plus très bien ce que ça veut dire. Jusqu'ici, je vous aurais dit, mais bien sûr qu'il faut s'engager. C'est bien l'engagement, il faut défendre des causes, avoir des partis pris, des points de vue, une certaine idée du bien et du mal. Je serais même allée jusqu'à pointer le manque cruel dans certains essais d'engagement, tout à fait capable de me dire ce qui va mal, tout à fait capable de promouvoir le dialogue, la délibération, l'égalité dans la diversité, mais de manière vague, abstraite, pas assez engagée justement, pas assez courageuse. En plus élaborée, je vous aurais cité Sartre, je vous aurais parlé de ce double sens de l'engagement chez lui, cette idée que tout homme est de fait engagé dans le monde, mais qu'il a aussi à s'y engager délibérément pour le modifier. Mais aujourd'hui, je dois dire que je ne comprends plus ce que ça veut dire. Comment faire quand on n'a pas de point de vue sur le monde, quand on ne sait plus ce qui est vraiment bien ou mal, quand on sait aussi que l'on est pris dans une époque et que ce qui vaut à un moment donné sera condamné à un autre.
Écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un, adulte ou pas, etc., doit pouvoir faire comprendre, pourvu qu'on l'écoute avec suffisamment de sympathie et surtout en lui faisant suffisamment crédit, doit permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Et aller supposer que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas expliquer ce qu'il en est, que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas être consentant, il y a là deux abus qui sont très, je crois, intolérables.
Il y a quelques semaines, l'affaire Gabriel Maznev a révélé l'indifférence, ou pire, la défense de la pédophilie par des intellectuels français dans les années 70 notamment. Un article publié sur le site de France Culture rappelait qu'en 1977, 2 tribunes étaient parues pour décriminaliser les rapports sexuels entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Parmi les signataires, Foucault, que l'on vient d'entendre, mais aussi Beauvoir, Barthes, Derrida, Dolto et encore lui, Sartre. Comment ont-ils pu signer ça? Quelle idée se faisait-il d'un enfant, du consentement, de l'emprise d'un adulte? En découvrant ça, l'idée que je me faisais de l'engagement en a pris un coup. Les philosophes se trompent, ce n'est pas le problème. Descartes pensait par exemple que la glande pinéale était le siège de l'âme, mais personne ne s'en est trouvé offensé. Le problème est donc bien celui de l'engagement qui suppose par définition qu'on aille plus loin, plus complètement que sa propre pensée, qu'on s'engage donc, qu'on prenne part, qu'on s'inscrive au nom de sa pensée dans l'espace public, qu'on prenne le risque non pas de l'erreur mais de la faute. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi vouloir utiliser sa pensée? Pourquoi vouloir l'éprouver, la frotter au réel? Est-ce la preuve de sa validité? Est-on plus fort, plus honorable quand on s'engage que quand on ne fait que penser?
Je n'ai jamais parlé à propos de Macron, de fascisme, ni de près ni de loin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est lui aussi un symptôme de la dérégulation en cours du système politique parlementaire, qui a beaucoup de causes, mais qui, entre autres, a la soumission nécessaire des décisions politiques prises dans le cadre national à des impératifs qui sont ceux du capitalisme international.
Entre le risque de la faute et la mollesse qui ne dit rien, que reste-t-il alors de l'engagement? Des analyses de l'état actuel? Une esquisse d'une autre pensée possible, comme le fait Alain Badiou ici et dans son livre sur Trump, pourquoi pas? Au fond, je dois dire que je ne sais pas. Je n'attends pas d'un philosophe qu'il me dise quoi penser d'un fait d'actualité ou qu'il me fasse un programme de présidentiable. Ce qu'il devrait faire, je n'en sais rien. Alors, peut-être ne doit-il rien faire, justement. Car l'engagement, comme le pensait Sartre, n'a peut-être rien à voir avec le devoir ou la nécessité. C'est peut-être juste une option et pas une obligation.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.